BPM, élection municipale 2020.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre. Les élections municipales auront lieu le 15 et le 22 mars prochain. À cette occasion, BPM vous propose du 5 au 13 mars des émissions spéciales. Les candidats des villes de Limay, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui et demain, nous nous intéressons à Limay et nous accueillons ce matin Mickaël Boutry de la liste Un Nouveau Souffle pour Limay. Bonjour Mickaël Boutry.
Bonjour.
Alors vous avez 49 ans, vous êtes né à une commune proche de Dieppe, en Seine-Maritime. Vous êtes marié, père de 3 enfants. Vous êtes agent de la SNCF, technicien dans un technicentre de maintenance TGV à la Plaine-Saint-Denis. Vous êtes militant syndical à la CGT. Vous participez activement à la vie associative, sportive et culturelle de Limay. Vous avez été parent d'élève de 2004 à 2017. Et vous avez également été bénévole dans la section badminton de l'ALJ avant de rejoindre le Limay Handball Club 78. Côté politique, vous êtes conseiller municipal de Limay de 2008 à 2010, puis vous occupez le poste de maire adjoint en charge des travaux de 2010 à 2014, avant de finir au poste de maire adjoint, cette fois à la vie associative, entre 2014 et 2016. Depuis 2016, vous n'êtes plus maire adjoint, mais conseiller municipal d'opposition. Vous êtes donc candidat à Limay, ville de 17 000 habitants pour 12 km². Vous conduisez la liste Un Nouveau Souffle pour Limay. Vous êtes adhérent au Parti communiste français, même si vous n'avez pas obtenu l'investiture. Cela fait plusieurs mois que vous travaillez avec un collectif afin d'élaborer un projet pour votre ville. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Alors, ce qui m'a motivé, surtout, c'est que on ressentait un mécontentement au sein de la population. Donc les habitants n'étaient pas satisfaits de la politique menée par le maire actuel Éric Rouleau. Donc quand on les a questionnés, ce qui n'allait pas surtout, c'est qu'il y avait beaucoup trop de construction. Après, la ville était sale, il manquait des aires de jeu et également ils ne se sentaient pas écoutés et respectés par le maire actuel.
Alors vous avez créé votre liste, a-t-elle suscité l'engouement cette liste ? Un nouveau souffle pour Limay ?
Bien sûr, parce que ça fait actuellement pratiquement 18 mois qu'on travaille avec les habitants. Et dès qu'on a été questionné les habitants, on a fait beaucoup de porte-à-porte. Et les habitants étaient satisfaits de notre démarche. On leur a posé des questions, ce qui n'allait pas, ce qu'ils proposaient pour l'avenir. Et du coup, nous, ça nous a permis, avec les habitants, avec les jeunes, avec les enseignants et puis avec les membres d'associations, justement, d'élaborer notre projet. Que ce projet donc fondé sur l'égalité, la solidarité, le vivre ensemble.
On va y revenir justement sur tous ces programmes. Je vais vous poser une question. Vous êtes encarté au Parti communiste, même si le parti ne vous a pas accordé son investiture, il a donné à Éric Rouleau. Alors pourquoi avoir fait une deuxième liste ? Parce que les gens sont pas contents. Vous personnellement, pourquoi avoir fait une liste ?
Alors que on a fait une deuxième liste parce que, comme je vous disais, donc on a été voir les citoyens. Et d'après les questionnements, donc l'appel c'était sans appel, il fallait qu'on parte parce que si on partait pas, si on mettait pas une deuxième liste à gauche contre le maire actuel Éric Rouleau, c'était la droite qui passait aux élections au 15 mars. Donc on s'est dit il faut y aller.
Vous avez quand même des désaccords avec Éric Rouleau.
Ah oui, c'est des accords politiques, oui, tout à fait, oui.
Alors quel genre de désaccords justement ?
Alors les accords politiques donc sont dès l'élection en 2014, donc ça a commencé parce que quand on a fait campagne, on a dit aux habitants que on a parlé des impôts, que les impôts ne seraient pas augmentés, et 15 jours après les élections, donc une fois le conseil municipal mis en place, les impôts ont augmenté, même si beaucoup d'entre nous n'étaient pas pour, quoi. Donc déjà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça a été la mise en place de GPSO.
Bah justement, oui.
Voilà, où le maire actuel était vice-président dans une équipe majoritairement à droite.
D'accord, donc ça vous gêne vraiment ?
Ah bah oui, c'est pas normal. Et puis, il n'y a rien qui a été fait pour. Il n'a pas pesé du tout pendant ce mandat au sein de la GPSO. Quand on voit l'état actuel de la voirie, par exemple, la voirie, donc c'est une compétence GPSO. Et on s'aperçoit que Aubergenville et les Mureaux ont repris son compétence au sein de leur municipalité, alors que chez nous, ça n'a pas été fait. Et donc, c'était un des grands problèmes qui ont été soulevés par la population, la propreté de cette ville.
Donc vous, clairement, si vous êtes élu, vous reprenez cette compétence à la GPSO ?
Alors, si on est élu, oui, on mettra les conditions pour récupérer cette compétence, mais également la compétence, l'éclairage public, l'eau et les ordures ménagères. Et on mènera une bataille aussi avec GPSO pour pourquoi pas redevenir en communauté d'agglomération.
Voilà, alors vous êtes contre le statut communauté urbaine. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, c'est un peu du langage un petit peu compliqué. C'est quoi la différence entre communauté urbaine et ce que vous proposez, communauté d'agglomération?
Bah, communauté urbaine, donc ça représente un ensemble de 73 communes et 400 000 habitants. Donc on s'aperçoit qu'on éloigne vraiment les élus du terrain. Et donc c'est pas bon pour les habitants, parce que ils ont plus de contact, ils savent plus à qui s'adresser. S'il y a un problème sur la ville, on s'adresse à la ville, on leur dit non, c'est GPSO, on s'adresse à GPSO, bah non, c'est pas la ville. Et donc c'est pas normal pour les habitants, quoi.
Alors concrètement, vous voulez revenir en arrière? Enfin, en gros, c'est ça.
Donc revenir en arrière, ça sera pas possible de revenir en...
Oui, c'est ce que j'allais vous
mais
dire.
Mais c'est modifier le statut, justement.
C'est modifier le statut.
Modifier le statut pour que plus de compétences reviennent dans les municipalités.
Dans les communes. Alors, si vous êtes élu maire, vous vous engagez également un mandat de concertation avec les citoyens. Vous parlez notamment de référendum d'initiative citoyenne, de budget participatif et de conseil de quartier. Comment on peut mettre tout ça en place?
Donc oui, effectivement, donc nous, la démocratie participative sera le fil rouge de notre projet, c'est-à-dire pour tous les thèmes, on fera la démocratie. Donc on va créer, dès qu'on est élu, on mettra en place des conseils de quartier, comme vous l'avez dit, un budget participatif de 200 000 euros. Et là, ce budget, c'est donc les citoyens pourront proposer des projets, donc aussi bien sur la mobilité, sur la voirie, sur la culture, sur le sport. Et ces projets donc seront soumis au vote aux habitants. Et les projets qui sont retenus seront mis en place. On s'engage à mettre ces projets en place.
Alors, dans votre lettre de candidature également, vous regrettez, hein, vous l'avez dit il y a deux minutes, l'augmentation des impôts. Si vous êtes élu, vous vous engagez à les baisser?
Alors, s'engager à les baisser, non, parce que actuellement, quand on voit donc les moyens qui sont donnés aux communes,
il y a des baisses de dotation de l'État quand même. Hein, voilà. Et là, il n'y a pas de parti politique, c'est pour tout le monde. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc, les dotations de l'État diminuent. Je ne m'engage pas à les baisser, par contre, je vais m'engager à les maintenir, comme ça, sans augmentation.
Alors, on va parler justement de votre projet. D'abord, concernant l'urbanisme et l'aménagement du territoire, pour vous, le projet en centre-ville et le projet gare, voulu par la municipalité sortante, ne sont pas adaptés. Pourquoi?
Alors déjà, donc, ces projets qui ont été montés, donc, il n'y a eu aucune concertation, que ce soit aussi bien pour le projet gare que le projet centre-ville. Donc les riverains n'ont pas été amenés à donner leur avis. On leur a simplement fait voir ce projet, ce qui est anormal pour de tels projets, parce qu'un projet d'une telle ampleur, nous estimons que non seulement il faut que les riverains du quartier soient sollicités, mais l'ensemble de la population, parce que c'est quand même des projets qui engagent la ville pour plusieurs années. Donc nous, dès que nous serons élus, donc nous voulons pour le centre-ville, par exemple, concerter la population, monter ce projet ensemble. Et donc, on va y proposer donc un espace culturel avec salle de spectacle, salle d'exposition, un tiers-lieu. On veut que les gens retrouvent le goût à la vie, le goût à créer du lien social, se déplacer, boire un café sur un parvis, voilà, discuter, échanger.
Ça, c'est ce que vous proposez?
Oui.
Donc, concertation. Là, vous nous avez parlé du centre-ville. Pour la gare, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour la gare?
Alors, pour la gare, donc, le projet est un peu plus avancé. Donc, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Pour l'instant, il faut voir l'état d'avancement de ce projet. Mais éventuellement, nous, ce qu'on pensait y mettre, c'est, par exemple, le bureau information jeunesse, donc, pour les jeunes, le dissocier, donc, de l'espace jeune. Et donc, est-ce que l'espace jeune, les jeunes n'ont pas les mêmes attentes, hein? Certains veulent du sport, certains de la culture. Donc, l'idée serait placer la maison de la jeunesse au quartier de la gare.
Alors, un autre sujet qui vous tient à cœur, comme on en parle souvent sur cette antenne, la désertification médicale. Vous voulez créer un centre de santé municipal. Quelle est la différence entre votre projet et le projet d'Éric Rouleau?
Alors, tout d'abord, donc, un centre de santé, on est tous d'accord qu'il manque de médecins sur le département, sur notre territoire. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire attention donc sur le type de projet, son contenu et son emplacement et son montage juridique. Il faut respecter le code des marchés publics. Donc on sait que ça coûte de l'argent de monter un centre médical pour la collectivité. Et il faut faire attention parce que cet argent, c'est l'argent des contribuables. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Il ne faut pas mettre en difficulté donc les professionnels qui sont déjà installés sur la ville. Par exemple, la ville ne peut pas mettre de locaux à disposition à titre gratuit pour une activité libérale. Cela est injuste par rapport aux autres praticiens qui sont déjà en place. Donc nous, ce qu'on va proposer, donc c'est un projet public, en grande partie donc qui est subventionné donc soit par le département et par l'ARS. Et dedans, donc ce sont des professionnels qui seront salariés de la structure. Donc ça peut être des médecins, des kinés, des dentistes, des infirmiers, du personnel administratif. Et le fait de mettre du personnel administratif, ça décharge les médecins, les praticiens de tout papier administratif à remplir.
Alors concrètement, vous êtes maire, vous avez été conseiller municipal, vous savez très bien que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué, hein, trouver des médecins.
Complètement, ouais.
Donc, et partout en France. Hein,
Nous savons très bien que ce projet ne sera pas fait du jour au lendemain. Hein. Paris, c'est pas fait en deux jours. Hein. Donc, ce ne sera pas fait l'année prochaine, bien entendu. Mais on va remonter le manche parce que ça sera mon bébé, comme on dit, pour travailler rapidement dessus. Et donc, on ira à la recherche de jeunes médecins. Et pourquoi pas proposer donc, des aides financières de jeunes médecins qui sont en médecine. Et après, en contrepartie, ils viennent chez nous ensuite.
Alors, vous en parliez hein, il y a quelques instants, la jeunesse, hein, une de vos autres priorités. Vous comptez la faire participer pour construire, selon vous, le Limay de l'avenir. Alors, quels seront les outils mis en œuvre pour arriver à ce résultat?
Déjà, nous mettrons en place un conseil consultatif jeune, parce qu'on s'aperçoit que les jeunes ont beaucoup d'idées, des super idées, ont des projets. Donc ces projets au sein du conseil consultatif, donc on seront débattus et votés, et ça pourra aboutir par exemple sur des projets intergénérationnels que l'on mettra en place de l'école maternelle jusqu'au senior de la ville.
Le mieux vivre ensemble, la définition pour vous du mieux vivre ensemble?
Alors le vivre ensemble, c'est-à-dire que nous allons être élus pour permettre donc aux gens donc de ressortir de chez eux, de rediscuter ensemble.
C'est compliqué ça quand même.
C'est compliqué, mais c'est une démarche que l'on va faire, parce qu'on s'est aperçu que quand on fait du porte-à-porte, les gens ont envie de discuter. Bien souvent, donc les gens se posent 20 minutes, une demi-heure, et on discute de choses et d'autres. Hein. Pas forcément politique, mais on discute. Ça veut dire que les gens ont envie de discuter. Et donc c'est à nous d'aller chercher les gens chez eux pour travailler avec eux, pour leur permettre de s'épanouir et pour leur permettre de créer du lien social.
Mais comment on crée du lien social?
À créer du lien social, quand on voit les espaces libres qu'il y a sur la ville, il faut réinvestir ces lieux publics par le biais des associations. Les associations, c'est un levier. Les services culturels de la ville, les services des sports de la ville, ça, ce sont des leviers qui font que ça va permettre aux gens de sortir chez eux.
Donc, aujourd'hui, il y a quand même des associations à Limay?
Oui.
Bon, et beaucoup?
Beaucoup. On a un tissu très riche associatif,
voilà,
sur la ville.
Vous allez créer des tables rondes, vous allez créer des... Qu'est-ce que vous pouvez créer concrètement hein, pour la personne qui nous écoute?
Alors, pour les associations, donc, il y a un comité consultatif vie associative qui existe déjà, que on va réutiliser, renforcer.
Et à quoi il sert aujourd'hui?
Aujourd'hui, actuellement, je ne suis plus dans la majorité, donc je ne peux pas vous dire s'il sert toujours et à quoi il sert. Après, ce que je sais, c'est que c'est un bel outil et il faut s'en servir, notamment pour faire des groupes de travail. Et pourquoi pas mettre en place une fête des associations qui permettrait de connaître au mieux les associations.
Vous comptiez la faire au mois de juin, c'est ça, hein, d'après votre programme?
C'est ça, oui.
C'est ça, d'accord.
Mais ça n'enlèverait pas le forum des associations qui se passe en septembre, comme tous les ans, bien sûr.
Très bien. Alors, on va parler d'un sujet qui concerne tous les parents qui laissent leurs petits le matin à l'école, l'éducation, évidemment. Alors, vous regrettez la diminution des dotations scolaires et la suppression du doublement des crédits lors de la création de nouvelles classes. Expliquez-nous un petit peu.
C'est-à-dire que on avait pour habitude, lorsqu'on créait une nouvelle école, une nouvelle classe, les crédits étaient doublés pour la première année. Parce que il faut équiper la classe entièrement de livres, de jouets, si c'est une maternelle. Donc les crédits étaient doublés. Et ensuite, il y avait 2 euros qui ont été enlevés par enfant sur l'ensemble des classes ces dernières années.
Et pourquoi?
C'est un choix politique.
Mais vous êtes au conseil municipal, il y a peut-être eu des explications. On posera la question à Éric Rouleau.
On lui posera la question. Après, tout dépend où on veut mettre ses priorités politiques. Nous, on part du principe que l'éducation, c'est bien une des priorités pour nos enfants, qui c'est là où il faut mettre les moyens.
Et alors, justement, mettre plus de dotations pour les nouvelles classes, est-ce que vous avez d'autres idées en ce qui concerne l'éducation?
Oui, donc nous mettrons dans les écoles maternelles, donc nous mettrons une ATSEM par classe dans chaque école pour permettre aux ATSEM d'avoir de meilleures conditions de travail, mais également pour les enseignants.
Oui.
Voilà. Ce que, ben, quand vous regarderez, je sais pas, vous avez vu certainement les programmes des autres candidats, donc ça a été pris aussi dans celui de M. Rouleau, qui veut mettre une ATSEM, à savoir que les ATSEM, quand même, ont fait grève pendant 10 jours à peu près, parce que par rapport à leurs conditions de travail, et qu'ils n'ont jamais été reçus par le maire pour négocier, donc c'est un petit peu démagogique de faire ça. Bref, ça c'est une parenthèse. Ensuite, bah, par rapport donc au scolaire, c'est également donc de donner des créneaux piscines dès le jeune âge aux enfants, parce que c'est important d'apprendre à nager, apprendre la natation est important pour se développer. Après, nous mettrons un nouveau service Pédibus au sein de la ville. Ça permettra donc avec des éducateurs cette fois de prendre donc les enfants à côté de chez eux et les amener de d'un point A à point B jusqu'à l'école. Ce qui évite d'avoir trop de circulation devant les écoles et éviter l'insécurité vis-à-vis des véhicules.
Très bien. Dernier sujet, il nous reste 4 minutes 30, donc on a largement le temps. 3 minutes 30, pardon. Un sujet phare de tous les candidats depuis les élections européennes, hein, c'est la transition écologique. Alors, quelles sont vos priorités en matière écologique à l'IMEC ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui ?
Ce qu'on peut améliorer, donc c'est nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un plan de rénovation de nos bâtiments municipaux.
Ils en ont besoin, selon vous ?
Ils en ont besoin, surtout pour éviter les consommations, donc les consommations énergétiques où c'est pas bon pour la planète. Changer un peu ce fonctionnement de chauffage et en même temps, ça permettra de baisser nos coûts de fonctionnement. Ensuite, donc, on veut mettre moins de bitume quand on voit les écoles maternelles ou écoles élémentaires. Donc, on veut essayer de remettre des arbres, remettre de la verdure dans les écoles.
Dans les cours, par exemple, de récréation ?
Dans les cours de récréation, parce que quand on voit les étés maintenant et au printemps, les canicules sont de plus en plus présentes. Donc, avec de l'herbe, on sait que il y a une réflexion solaire qui est moins importante, donc moins de chaleur au sein de l'école. Voilà, donc c'est une chose. Et en plus, on s'est aperçu que une ville ou une école avec du bitume, c'est pour le moral, c'est moins bien qu'une ville avec de la verdure, avec des arbres. Donc voilà, on dit ça. On joint l'utile à l'agréable. Voilà. Ensuite, récupérer donc les eaux de pluie pour alimenter les sanitaires des bâtiments municipaux, mais également pour arroser nos parterres de fleurs. On veut lutter aussi contre le gaspillage, lutter contre les dépôts sauvages.
Il y en a beaucoup à Limay.
Comme partout, il y a un peu de dépôts sauvages, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Il faut après c'est à nous de regarder ces dépôts, envoyer par exemple, on a des ASVP chez nous, envoyer les ASVP et contrôler, regarder éventuellement si c'est des dépôts sauvages, si on peut récupérer des noms et adresses, et puis verbaliser les personnes qui font des dépôts sauvages, parce que c'est inadmissible.
D'accord.
Et ensuite, on veut dans la réserve naturelle régionale, donc qui est juste à côté de Limay, donc on voudrait y instaurer, pourquoi pas, une maison de la nature et permettre donc aux écoliers, aux seniors, aux associations de pouvoir visiter ce site qui est bien représentatif. Voilà.
Alors j'ai une toute dernière question. Il nous reste une petite minute. Que pensez-vous de la passerelle qui va relier Mantes-la-Jolie à Limay ? C'était la question bonus, celle-là.
Donc la passerelle qui va relier Mantes à Limay, donc
ou Limay à Mantes, hein, ça dépend de quel point de vue on se place.
Oui, bien sûr. Donc c'est une bonne chose parce que nous, comme on a envie de nous rendre notre centre-ville attractif, donc on s'est dit que grâce à cette passerelle, ça va nous permettre aux gens de Mantes de venir sur Limay pour boire un verre, pour regarder un spectacle. Voilà, donc c'est important pour nous. Et ça va permettre de relier aussi, de cette passerelle, nous allons pouvoir relier sur des liaisons douces aussi pour notre ville.
Et pour la gare peut-être de Mantes-la-Jolie ?
Et pour la gare de
Mantes-la-Jolie ? Il y a beaucoup de Limériens qui prennent le train à
oui.
Mantes-la-Jolie.
Voilà. Alors nous, ce qu'on propose aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur notre projet, donc c'est de mettre en place, de voir avec la région, SNCF Mobilité, avec les riverains, de demander donc, des trains de rabattement entre Gargenville et Mantes-la-Jolie, donc en passant par Limay, bien évidemment. Et ça éviterait justement que tout le monde prenne son véhicule et que ça bouchonne au niveau des ponts et même pour trop de pollution aux heures de pointe. Quoi.
Michael Boutry, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Bonne journée à vous. Cette émission sera rediffusée à midi et 18h. Excellente matinée à l'écoute de BPM.